C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons maintenant de l'élection hier dans Jean Talon. D'abord, regardons les faits, les résultats. Le candidat du Parti québécois, Pascal Paradis, est allé chercher 44 % des voix. Candidate de la CAQ, 21 %. C'est toute une débarque pour la CAQ, là. On va y revenir tantôt. Québec solidaire est à 17. Le Parti libéral, ça a été un château fort libéral, Jean Talon, pendant des années. C'est autour de 8,8 %. Et le Parti conservateur, quasi absent, là, 6 %. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette élection? D'abord, je vais vous faire écouter le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était évidemment aux oiseaux.
Ce soir, chers amis, nous avons fait la démonstration, hors de tout doute, que la coalition Avenir Québec n'est plus invincible. Nous avons démontré clairement aux Québécoises et aux Québécois que la CAQ pouvait être vaincue et qu'un seul parti est en mesure d'y arriver, le Parti québécois.
Entre-temps, le premier ministre François Legault a commenté les résultats. C'était une salle silencieuse, des faces longues. La CAQ n'est pas habituée de perdre. Et voici ce qu'il avait à dire.
Notre extraordinaire candidate, Marie-Annick, comme je te disais tantôt en privé, t'as pas perdu. C'est la CAQ puis moi qui avons perdu. Je pense que les gens de Jean Talon ont été les porte-parole de tous les citoyens de la grande région de Québec pour nous dire vous devez faire un examen de conscience. C'est ce qu'on va faire. Parce que j'ai bien l'intention, dans les prochains mois, de rebâtir ce lien de confiance avec les gens de Québec, parce que c'est trop important pour moi, Québec.
Qu'est-ce qu'on peut dire? Et on va élaborer avec Jonathan Trudeau tantôt, mais d'abord, c'est une victoire claire, convaincante, sans équivoque, du Parti québécois dans un comté de tradition libérale. Évidemment, les comtés changent avec les années, mais le PQ n'a jamais fait élire personne dans ce comté-là. Et dans le cas de la CAQ, la victoire de Joël Boutin, ça n'avait pas été spectaculaire, là. C'était une victoire confortable à l'époque. À peu près 3000 voix de majorité. Elle avait obtenu 32 % des voix avec un taux de participation de 75 % Hier, c'était à peu près 50 % Donc, c'est clair, c'est une grande victoire pour le Parti québécois. Et ça place le PQ dans une position de, je dirais pas d'opposition officielle, parce que techniquement, c'est le Parti libéral, mais c'est une opposition de fait. C'est une opposition qui devient celle qui regarde le gouvernement et à qui on peut dire « Maintenant, je suis ton vis-à-vis ». Ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour Québec solidaire non plus. Puis le Parti libéral, ben le cauchemar continue. Dans le cas de la coalition Avenir Québec, tu sais, les gens ont essayé de dire « Est-ce que c'est un vote de protestation parce que le gouvernement a changé d'idée par rapport au troisième lien ?» Faut remarquer qu'ils ont voté pour un candidat qui est contre le troisième lien. Fait que ça serait étonnant que les... Puis le Parti québécois aussi, là. Puis des gens qui sont pour le tramway. Ce serait étonnant que ça soit vu comme ça. Moi, ce que je pense, c'est que... D'abord, appelons ça une grogne qui s'exprime. Moi, j'ai vu dans le passé, dans des élections comme ça, partielles, des victoires étonnantes. Des libéraux dans Saint-Jacques, un comté péquiste dans le temps. Puis les libéraux avaient gagné. Les gens protestaient contre le gouvernement. On pourrait dire qu'ils protestent contre la politique économique, les taux d'intérêt, l'inflation, bon, pénurie de logement. Mais il y a quelque chose, d'après moi, de plus profond que ça. C'est pas tant le troisième lien, c'est de se faire dire une chose, passer de nous faire croire que c'est pas une promesse brisée. Et c'est là que la confiance s'effrite. Personne ne croit que la CAQ a changé d'idée, que le gouvernement a changé d'idée sur le troisième lien, une fois rendu au pouvoir. Ils ont pas dit nécessairement la vérité aux Québécois, ou en fait, ils ont laissé les gens de Québec flirter avec l'idée que ce troisième lien pourrait se faire, pour ensuite dire, ben finalement, c'est pas réaliste. Et ça, je pense que M. Legault en est conscient quand il dit qu'il doit rebâtir la confiance. Parce que c'est vraiment majeur. Quand les gens vous regardent et on devient cynique, sarcastique. C'est un exemple. Et je pense que la leçon que le gouvernement tire de ça, c'est pas dramatique. Ils sont encore en tête des sondages, une immense majorité de députés. Le mandat est pas menacé, mais ça veut dire que, comme dit le Parti québécois, ils sont pas invincibles. Et tu sais, ça prendrait 2 ou 3 partiels, mettons, là, d'ici la fin du mandat, puis que la coalition Avenir Québec perd ses 2-3 partiels, ben là, ça place un peu le marché pour la prochaine élection. Alors voilà pour ce dossier. Et le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, va être avec nous. L'autre affaire ce matin, tu sais, quand on parle de casinos puis de blanchiment d'argent, on nous dit, ben, les casinos au Québec qui sont sous la juridiction du gouvernement, en fait, de l'Auto-Québec, on a pris des mesures, puis bon. Là, ce matin, on apprend, dans la presse, Vincent Larouche, Daniel Renault, que la GRC pense que le cartel mexicain de Sinaloa, qui est probablement une organisation criminelle là, puissante, probablement la plus dangereuse dans le monde pour le trafic de stupéfiants, utilise un opérateur à Montréal pour blanchir son argent au casino de Kahnawake. Il y a 3 pays qui enquêtent, donc les policiers de 3 pays qui enquêtent, autour d'un individu qui s'appelle Luftar Isa, qui est d'origine albanaise et qui fait de la navette entre le Mexique, l'Europe et Montréal. Il serait un peu le blanchisseur. Il prend les profits de la vente de drogue et l'espèce de poteau de l'organisation s'appelle El Mayo. Ça, c'est le chef du cartel. Il a besoin d'une espèce de banquier qui, lui, va blanchir l'argent. Et pour blanchir l'argent, ben on a ce casino. Il y a un restaurant. Il y a toutes sortes de transactions. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, ça se passe dans un endroit qui s'appelle Magic Palace, qui est une espèce de grande salle avec des machines à sous. Et il y a, disons que c'est un projet qui divise quand même la communauté à Kahnawake. Tu sais, les gens, là, de voir ce type d'établissement puis ce type d'individu, ils aiment pas trop ça. Et les gens de Kahnawake veulent pas officiellement en parler. Mais on a des détails sur les transactions faites à l'étranger. Parce que quand il y a des transactions importantes, il y a un registre qui existe où vous devez détailler les montants et où l'argent est allé. Ça s'appelle le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Dans ce rapport de 2013 à 2019, Luftar Isa a reçu plus de 209 virements électroniques. Ça, c'est la pointe. 3,1 millions venant du Mexique qui l'épuisait immédiatement par des transferts ou des chèques sortants. Le restaurant qui porte le nom de sa femme a envoyé 28 millions vers l'Albanie. 28 millions, un restaurant. Le Mexique, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Italie pendant la pandémie. 28 millions, un restaurant. Et d'autres activités connexes. Alors, c'est quelqu'un qui est installé ici, comme on dit, discret, fait pas de vagues, et serait donc le grand blanchisseur. Et on le sait que l'Auto-Québec répète avec raison que ce sont des casinos illégaux, mais on tolère, on veut pas de troubles, on veut pas de chicanes avec les Mohawks, et on laisse faire. Puis il y a beaucoup, beaucoup de Québécois qui vont jouer dans ces casinos parce qu'ils trouvent que c'est plus payant, parce qu'ils aiment plus l'environnement. Mais c'est probablement un des endroits où c'est assez facile de pouvoir blanchir de l'argent. Puisqu'on parle d'économie, toutes sortes de données ce matin. Je voyais ça, c'est la firme Moneris. C'est un portrait partiel, je pense qu'il faut faire attention. Mais que le commerce en détail en arrache, puis que les gens vont vers les magasins où c'est pas cher. C'est vrai en alimentation, mais c'est vrai pour d'autres types de produits. Et on a vu quand même des restaurateurs qui sont conscients que des lunchs qui coûtent trop cher, puis des soupers en famille qui peuvent coûter jusqu'à 200 $ ben les gens n'ont pas les moyens d'en faire aussi souvent. Et ça commence à paraître. Là. Je voyais hier à TVA des annonces à Québec, on vous offre 50% de rabais sur 50% des plats. Puis on va faire ça jusqu'à Noël. Mais on sait que les gens qui ont une hypothèque actuellement, puis il y en a beaucoup qui vont renouveler, puis qui n'ont jamais connu ça, des taux élevés, il y a des projections qui sont faites. Ça, en gros, votre facture hypothécaire pourrait grimper de 15 à 25. Ce n'est pas rien, là, dans un budget mensuel. Il y a différentes stratégies, mais je pense que c'est important de le noter. Puis je vais terminer avant d'aller à la pause par la petite vie. Vous allez me dire, qu'est-ce que la petite vie vient faire là-dedans? Vous avez peut-être vu, tout le monde en parle, Marc Labrèche, Claude Meunier, dire « On aurait préféré que la petite vie soit présentée à Radio-Canada, point. » C'est un classique. Les gens l'attendent, la petite vie. Le nombre de reprises, c'est hallucinant, puis avec des cotes d'écoute très élevées. Là, pour voir la petite vie dont vous entendez parler, et des gens ne sont pas nécessairement au courant, là. Ça commence ce soir, la petite vie. Mais pour regarder les épisodes de la petite vie, vous devez payer. Tout.tv extra. On veut des abonnements. Sinon, patientez dans les prochains mois, puis ils nous disent jamais tout de suite quand, mais ça va venir, peut-être janvier, je sais pas. Ce sera présenté par Radio-Canada. Les diffuseurs font ça, TVA fait ça aussi. Ce sont des stratégies pour aller chercher des abonnements. Puis ça permet de jouer avec les conditions de financement, mais je n'irai pas dans tous ces détails-là. Mais avouez qu'il y a un côté frustrant, surtout la petite vie. Tu sais, une nouvelle série, qu'elle soit disponible sur la plateforme, OK. Faire payer les gens pour écouter la petite vie, disons que c'est assez ordinaire. Et puis, puisqu'on parle de Radio-Canada, on apprend que le VP du réseau français, Michel Bissonnette, officiellement a démissionné. On va dire les vraies affaires, il n'a pas démissionné. On l'a convaincu de partir, pour ne pas dire qu'on l'a congédié. Alors, pourquoi on l'a congédié? Toutes sortes de raisons. La présidente, Mme Tate, qui a été renouvelée, mais pour un court mandat, avec M. Bissonnette, disons que ce n'était pas des atomes crochus. Et ils se sont pognés sur plusieurs sujets, notamment les pressions financières exercées sur Radio-Canada par rapport à la CBC, mais aussi sur toute l'affaire là, du politiquement correct. Le fameux mot en haine qui avait été utilisé dans une émission de Radio-Canada, puis là, on s'était fait blâmer. Puis, tu sais, à un moment donné, comme VP, tu tiens, puis tu dis, « Hey, c'est parce que là, il y a un contexte. » Puis on n'est pas pour être obsédé là par ce mouvement qui veut absolument tout annuler ce qui existe dans l'histoire. Et le livre de Pierre Vallière s'appelait comme ça. Alors, je pense que la vraie histoire, là, on nous présente ça comme une démission, mais c'est pas ça. C'est qu'elle, elle sait très bien que ça marche pas avec lui, puis elle s'est dit, moi, le faut à la porte, puis on verra après pour la suite des choses. Officiellement, la démission devrait être annoncée ce matin. Faisons le tour de quelques nouvelles. On apprend, bon, Radio-Canada et aussi la presse ce matin, que le gouvernement du Québec fait des appels d'offres pour des places dans les ressources intermédiaires pour les personnes âgées. Et on découvre qu'entre 2020 et 2022, 40 des 66 appels d'offres pour créer des places ont été annulés. Pourquoi? Pas de preneur. Et là, ce matin, on va prendre un pas de recul puis on va regarder ce qui se passe dans les fameux appels d'offres du réseau de la santé pour des ressources intermédiaires comme ça. Pourquoi les gens sont pas intéressés? Parce que le gouvernement paye mal. Tu n'iras pas perdre de l'argent dans une aventure. Tu regardes la proposition qui est faite et tu dis, ça ne tient pas compte de la réalité. On va parler avec la ministre responsable des aînés un peu plus tard ce matin. Mais le nombre de gens qui sont intéressés par ces projets-là diminue à vue d'œil. Et plus largement, faire affaire avec le gouvernement du Québec, c'est de moins en moins intéressant. Et je prends tout le volet des services. Puis là, on va se concentrer ce matin sur les personnes âgées. Si vous êtes une personne âgée, puis en bonne forme, puis vous allez dans une résidence, une RPA, vous allez payer probablement cher pour le loyer. Vous allez avoir un certain nombre de services, alimentaires, la sécurité et tout ça. Si votre cas devient plus lourd, ces résidences sont plus intéressées à offrir des services payants parce que le gouvernement paye mal, parce qu'on n'a pas de ressources. Donc, si tu n'as pas de ressources dans cette résidence, il va falloir que tu quittes. Et là, ça va être la liste d'attente pour les places dans des centres de soins de longue durée ou des ressources intermédiaires comme ça. Les vieux, actuellement, là, quand vont regarder les prochaines années, c'est une clientèle qui n'intéresse pas grand monde. Les vieux qui sont pas trop en santé, là. Les vieux qui sont en forme puis qui ont de l'argent, c'est une autre affaire. Mais on le voit avec des appels d'offres comme ça qui n'intéressent personne. Tu dis, moi, je vais me lancer là-dedans, oublie ça. Rapidement, dans les autres nouvelles, on apprend dans Le Devoir ce matin que le gouvernement canadien a donné une dizaine de permis spéciaux pour permettre à des compagnies canadiennes de contourner les sanctions économiques imposées à Moscou. Et ça va dans les deux sens. Notamment, on a aussi permis à des entreprises de faire affaire avec Moscou, malgré donc ces sanctions dans le cadre de l'invasion en Ukraine. Saint-Basile-le-Grand, les citoyens inquiets, pas trop contents de l'arrivée de Northvolt. Il y a eu une séance d'information et moi, je reçois pas mal de courriels des citoyens qui sont inquiets de l'arrivée d'une méga-entreprise sur un méga-terrain dans un secteur qui est un peu plus calme depuis la fermeture de la CIL de McMasterville. Et aussi déjà des enjeux importants pour les infrastructures, on peut penser à la route 116. Donc, je comprends que la compagnie se veut rassurante. Il n'y aura pas de BAP. Et là, les citoyens disent, est-ce qu'on a notre mot à dire? On va vous écouter, mais vous ne pourrez pas empêcher un projet de cette dimension-là. Puis le maire est assez conscient aussi là, que ne peut pas empêcher une compagnie d'acheter des terrains. Il y a également la firme BRP qui a été blâmée par la CNESST concernant les salaires et les heures supplémentaires. C'est un scandale, donc c'est à Valcourt. Des employés venus du Mexique qu'on a exploités. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Des constats d'infraction pour avoir oublié d'augmenter le salaire pour les heures supplémentaires, le non-respect du salaire minimum. Ils n'ont pas remis le bulletin de paye et pas de registre des travailleurs. Venant d'une entreprise, produit récréatif Bombardier, il y a quelque chose d'assez aberrant. D'exploiter des travailleurs mexicains. On a vu ça malheureusement sur certaines fermes. Mais là, une entreprise qui se plaint de ne pas avoir de main-d'œuvre, qui en fait venir du Mexique, puis qu'on n'est même pas capable de respecter les normes minimales de travail. Radio-Canada qui nous dit aussi que la GRC accorde des postes à des unilingues anglais, des postes qui sont supposément bilingues. Ça, c'est une chose, donc. Mais l'autre chose, c'est que il n'y a personne de ces gens-là qui sont unilingues, qui ont des postes bilingues, qui font des démarches pour apprendre le français. C'est confirmé par la GRC. Fait que si tu veux faire carrière dans la GRC et que t'es, mettons, francophone, t'as pas mal de croûte à manger pour gravir les échelons. Puis je termine avec Donald Trump. Son procès, un de ses nombreux procès, s'est amorcé. C'est toute l'histoire de la fraude, d'avoir gonflé ses actifs pour évidemment obtenir un financement plus facile, une fraude évaluée à 250 millions. Puis là, on comprend son jeu. Son jeu, c'est de dire, et c'est vraiment d'attaquer constamment, c'est ce qu'il a fait dans les corridors hier en parlant du juge comme étant quelqu'un de corrompu, en disant presque que c'est un bandit, que ce sont des personnes terribles et que c'est un vaste complot contre lui-même. Et c'est ça, sa stratégie. Puis là, il a sa face dure. Il joue la comédie à l'intérieur de la salle, en fait, du tribunal, avec une espèce de face un peu comme ce qu'on a vu sur sa photo, là. Le sourcil, puis tu sais, il aime ça, là, contrôler, puis regardez bien, là. Ils sont en train de me faire ça, mais je ne me laisserai pas faire. Et ça marche dans les sondages.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Mais là, voyons, un peu de délicatesse, Creton, là, quand même. C'est que là, maman nous a écrit une lettre. Et le timbre est de Perry. Oh,
nous autres, on en a reçu une de la Jamaïque.
My God, à triple la bonne femme.
Salut, ma jolie. Tu cherches la perle rare, eh bien, voilà ton huître ici qui...
Moi, je suis retournée en psychiatrie, imagine-toi d'abord.
C'est un événement, le retour de la petite vie 30 ans plus tard. Les 6 épisodes de 30 minutes sont disponibles depuis ce matin sur la plateforme tout.tv Extra. Claude Meunier est avec nous. Bonjour Claude.
Bonjour Paul.
Comment vont les émotions ce matin après la présentation à la presse, tout le monde en parle? Comment ça va?
Je suis heureux de voir que ça sort, enfin. Je suis content que ça sorte. On a hâte que les gens les puissent les voir. On a eu un super beau tournage. Ça marchait très, très bien devant les spectateurs quand on a joué. Hier, on a eu un très bon visionnement. Mais on a hâte que ça sorte parce qu'on est rendu là. On est rendu à la sortie. Et je suis content que... En même temps, j'avais un sentiment mitigé. Je me disais, sortir toute la gang ensemble, c'est peut-être pas le fun. Ça va déjà être fini. Les gens vont les regarder en deux temps, trois mouvements. Mais en même temps, c'est le fun parce qu'il y a une grande variété de sujets, je pense, dans la série. Puis il va en avoir pour pas mal tous les goûts, je pense, en tout cas. Ouais.
Il y a Marc Labrèche qui a dit hier, et je trouvais ça intéressant, que tu avais su garder l'essence de tes personnages, pas essayer de les réinventer, tout en les faisant quand même évoluer au fil du temps. Ce sont les mêmes individus, mais qui ont été, ouais, qui ont vu leur vie changer aussi, là.
Ben, en fait, c'est, je suis pas parti de l'extérieur, tu sais, je suis pas parti du fait qu'aujourd'hui, je sais pas, moi, il y a des transgenres, on parle des Tinder, je suis pas parti sur les changements sociaux, puis là, voir comment mes personnages ont réagi, je suis parti à l'envers, c'est-à-dire, j'ai suivi les personnages, puis j'ai imaginé comment ils seraient aujourd'hui. C'est sûr, bon, ben, je parle de ça. Il y a un peu de Tinder, il y a un peu d'affaires d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup de la vie de tous les jours. C'est pas, j'ai pas voulu faire, comment dire, donc, de juste montrer qui sont aujourd'hui, là. Tu sais, ça se passe. C'est eux autres qui ont vieilli, surtout. C'est ça qui a apporté les idées, parce que c'est ça. Je me suis inspiré des personnages qui ont évolué, qu'il y en a qui sont rendus, Rénal est rendu cardiaque, sa femme a toujours de faire des annonces, faire un peu d'argent de poche parce qu'il n'y a plus d'argent, il était à la retraite, puis il capote sur l'argent. Rénal est toujours dans des magouilles. Régin est toujours dans des magouilles. Timmy est esselé, il s'ennuie de moment. Thérèse est rendue à une agence de voyage astral. Ils s'en vont tous dans d'autres affaires, si on peut. Mais c'est les mêmes personnages, c'est la même famille, c'est les rapports entre la famille.
La surprise hier...
C'est surtout un show drôle.
Oui, hein? On va y revenir, mais la surprise hier, ça a été d'apprendre que Serge Thériault avait accepté de participer au dernier épisode, à la toute fin. On va écouter un extrait.
T'étais parti où, toi, là?
À l'épicerie.
À l'épicerie? Depuis 6 mois?
Ben, 6 mois, oui, non, je suis parti il y a 15 minutes.
Ouais. Et, méchant rêve, j'ai fait un méchant rêve, voilà, là.
C'est vrai. Hmm? Ah, mon Dieu, j'ai oublié d'acheter du beurre.
Non, wow, ce coup-là, j'y vais avec toi, minute, là. J'aime tellement ça, j'ai du beurre, et toi, maman.
Il est rendu fou du beurre.
Oui, fou du beurre.
Catherine me disait que hier, tout le monde avait une larme à l'œil, et peut-être même plus en regardant l'épisode. J'imagine toi aussi.
Ben oui. Oui, j'avais surtout la larme à l'œil avant qu'il arrive, parce que je voulais être sûr qu'il arrivait. Mais j'ai eu la larme à l'œil en le voyant, mais tu sais, j'ai écrit, j'étais avec lui, j'étais ému, mais ça, j'étais ému de le voir arriver en studio.
Comment c'est arrivé? Est-ce que dès le départ, quand tu dis « je vais revenir avec des épisodes », dans ta tête, il y aurait une place en sachant pas s'il allait dire oui?
Ouais, c'est exactement ça. C'est que j'espérais qu'il vienne faire un tour à la fin. Quand j'ai entendu qu'il ne ferait pas venir, quand j'ai compris qu'il ne serait pas là, je l'ai appelé, puis j'ai dit, écoute, là, tu accepterais peut-être de venir à la toute fin. Puis on a dit, tu sais, ça fait longtemps que j'ai écrit ça, Paul. J'ai écrit ça, ça fait 1 an et demi, 2 ans presque. Fait que j'ai parlé il y a 1 an et demi, 2 ans, puis là, j'ai parlé il y a peut-être 8 mois. Mais on se parlait des fois, on échangeait. Puis je l'appelais au téléphone, puis j'ai compté les épisodes, il trouvait ça bien drôle. Puis là, vers le mois de... Il m'avait dit, ben au printemps, on verra. Puis j'ai parlé au mois de mars, puis il dit, oui, j'irai. Fait qu'on l'a fait venir en studio, on a tourné ça dans un petit un studio réduit, dans une petite... avec personne ou presque. Puis on l'a présenté devant du monde qui ont réagi après pour avoir des réactions. Mais c'était très secret et très fermé parce qu'il voulait avoir, il voulait pas être avec tout le monde, là, puis avoir à affronter toute l'équipe. Tu sais. Mais ça s'est très, très bien passé. Puis il va bien, Serge, quand même, de ce temps-là. On s'est parlé encore hier. Là, tu sais, fait que j'ai compté le lancement. Puis il a hâte de voir les épisodes. Il doit être en train de les écouter, là. Il est debout après les écouter.
Ouais. Qu'est-ce qui a fait, tu penses, qu'il a dit oui?
Ben, c'est notre amitié, je pense. Puis je pense qu'il adore la petite vie. Il aurait aimé ça, d'être capable de le faire dans le temps. Puis je pense qu'une affaire bizarre, c'est que... Ben, bizarre... Serge aimait beaucoup toute la gang, la petite vie, tu sais. Puis lui, ça le, il avait pas le goût d'être. Il voulait mettre. C'était une sorte d'endossement du fait qu'on le fait, tu sais. En quelque part aussi, je pense, parce qu'il capote ses acteurs. Puis, tu sais, j'y parlais des personnages, où est-ce qu'ils étaient rendus. J'y parlais que, tu sais, que justement, que Thérèse a fait des voyages astrales, puis qu'elle a une agence de voyages astrales, qu'elle fait faire des. Il trouvait ça bien drôle. Puis c'était une manière à lui de... Puis j'ai parlé des comédiens. Puis c'était une manière à lui de, d'endosser l'affaire. Je sais pas comment l'expliquer vraiment. Fait que c'est ça. Il avait le goût de participer à sa manière. Puis il avait le goût de dire que... C'est un geste d'amitié aussi envers toute l'équipe. T'sais.
On revient à la base. Tu l'as souligné tantôt. Essentiellement, ça marche parce que c'est drôle. Puis que les personnages sont évidemment des personnages extrêmes dans leur style. Mais il y a ce... langage aussi qui est marquant, là, qui fait que la série est tellement populaire qu'elle va passer en reprise pour l'éternité. non, mais c'est quand même ça, la réalité. Ce langage-là, aujourd'hui, ça marche encore.
Tu sais, Paul, la petite vie, c'est comme une bulle, moi, je pense. Tu sais, puis quand j'écris moi-même, je rentre dans une sorte de bulle, tu sais. Ils ont un langage particulier. J'ai l'impression qu'ils sont ailleurs, sont en parallèle de la réalité, puis... C'est une bulle, c'est très ludique, hein? C'est un drôle, j'ai ce mot-là, là, ça fait un peu intello, mais c'est très ludique, c'est-à-dire c'est une bulle où on rentre, puis les références sont différentes, puis on parle de n'importe quoi, puis c'est un univers en soi. Nous autres, je disais ça à la blague, mais on joue à la petite vie, tu sais, c'est comme, c'est un univers qui se peut pas, c'est juste le fun, c'est un plaisir de jouer ça, puis c'est des blagues, c'est du burlesque absurde. Il y a le côté physique qui est drôle, il y a des jokes ordinaires, puis il y a des jokes bien songés. Il y a toutes sortes d'affaires qui apparaissent à mesure qu'on l'écrit, que je travaille, puis je parle pas juste de moi, je parle avec José Fortier. Puis c'est ça, c'est vraiment un plaisir, c'est du plaisir, c'est ça, puis c'est jouissif, puis c'est complet, c'est un monde en soi, puis c'est comme embarquer dans quelque chose qu'on aime beaucoup, comme les Simpsons, comme je sais pas comment l'expliquer trop, j'aime autant l'écrire que l'expliquer finalement.
Mais ce qui est frappant, c'est que je me souviens à l'époque de la première diffusion, puis bon, avec les nombreuses reprises, ce langage de la petite vie, on le retrouve aussi dans le quotidien, parfois, de comment ce qui va, là, c'est toi qui l'as inventé, ça.
Oui, mais ça venait de quelqu'un qui le faisait déjà, que j'avais remarqué, le barbier Ménec, qui oui. disait toujours comment ce qui va. Puis moi, souvent, on s'est mis à se parler comme ça, puis là, on l'a appliqué au personnage. Mais il y a des néologismes qui sont arrivés, même dans les annonces de Pepsi, avec ses songés. Dans le même, là. C'est peut-être pas une plus belle parole de la langue française, mais c'est rentré dans le langage populaire. C'est un honneur, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme, c'est que les gens s'habituent à ça, puis ça fait partie de leur vie.
Est-ce que ça va se limiter à 6 épisodes, ou déjà...
Pour l'instant? Oui. Pour le moment, c'est sûr. Là. J'ai pas le goût. J'aime pas ça dire non, j'ai pas le goût. Pas parce que j'ai des idées d'en faire d'autres, parce que c'est plate de dire ça quand tout le monde est content. Ben là, en tout cas, je vous le dis, j'en fais plus d'autres. Ça me fait plaisir que le monde vit, j'espère que tu vas continuer, mais j'ai pas l'intention de continuer tout de suite. Puis je suis pas là du tout. Mon idée, c'est d'en faire 4, puis là, je n'ai fait 6, parce qu'il y a beaucoup de matériel. Puis on a eu tellement de fun, Paul, mais tellement de fun à les faire, mais pas juste parce qu'on riait, mais à les répéter, à les tourner, je peux te jurer. Puis on était tellement étonnés de voir la salle, les gens dans la salle, parce qu'on tournait toujours devant le public, là, deux fois chaque épisode. Puis le monde dans la salle, je pensais que les premiers temps, j'ai eu une crainte que ce soit tout du monde de mon âge. Mais c'était du monde de tous les âges. Il y avait du monde de 30, 40, 50 ans, puis des groupes d'étudiants. il y a une sorte de transmission, tu sais, du samedi soir parental, là, le monde écoute ça avec leurs enfants, fait que les enfants viennent voir ça, ils connaissent ça, c'est ça qui est fun. C'est un show rassembleur, c'est tout ce que je vise, moi, Paul, un show rassembleur drôle, que les gens écoutent ça puis qu'ils rient comme dans le temps, puis je pense qu'il y en a qui vont rire encore, puis il y en a peut-être qui vont rire moins ou plus.
Oui, et là, je vais te mettre dans une situation intenable, comme tu l'as été un peu dimanche, tout le monde en parle. C'est présenté, c'est disponible là sur ici.tv extra, ce qui fait que c'est réservé pour les gens qui payent, alors que, me dit-on, ça va être au début de 2024 à Radio-Canada. Ouais. Dans le fond, là, un diffuseur public qui a entre les mains une pièce du patrimoine de la télé québécoise qui reprogramme à répétition en reprise, me semble qu'il aurait pu l'offrir gratos au monde.
On dirait que je m'entends parler, Paul. Mais...
en tout cas, Marc Labrèche a bien fait ça dimanche.
Ben, Marc il a poursuivi mon élan. Moi, j'étais plus poli. Puis je comprends, en fait, pour faire un petit résumé, je comprends que Tout.tv est important. Puis moi, je suis un fan de Tout.tv parce que j'écoute quand même pas mal Tout.tv. Il y a beaucoup de documentaires que j'aime, puis je réécoute des vieilles émissions, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est à peu près la seule plateforme vraiment québécoise qu'on a qui est dans ce genre-là. Mais moi, ce qui m'a déplu, surtout, c'est le délai. Tu sais, si le délai avait été d'une semaine ou de 15 jours, mais tu sais, comme tu dis, c'est juste que c'est 3-4 mois. Mais c'est plate. C'est plate là-dessus pour les fans. Puis effectivement, il y a peut-être une obligation de que ça appartient au Québec, cette série-là, ça appartient au monde. Mais cela dit, comme j'ai dit aussi après, je veux pas juste parler de l'horaire de la petite vie, je veux parler de la petite vie. Fait que je veux pas en faire un cas à chaque fois.
On va s'en occuper d'en faire un cas.
Faites-en un.
Claude, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Hey Paul, ça m'a fait plaisir. À bientôt, mon ami.
Okay. Salut, bye bye. Claude Meunier, donc, c'est disponible sur ici.tv extra. C'est pas pour en faire, disons, une cabale, là, mais ça demeure une pièce, je le disais, du patrimoine de la télé québécoise. Radio-Canada a profité, et c'est bien correct, là, a profité de la petite vie à plusieurs reprises. On a reprogrammé, on a offert ça aux gens, puis les gens étaient toujours présents au rendez-vous. On parle de 6 épisodes. Je comprends qu'il y a une plateforme pour laquelle les gens sont prêts à payer un abonnement pour des séries originales, pour des documentaires, pour des produits qui arrivent comme ça. Mais mettons que la petite vie, là, on aurait pu offrir ça gratos aux Québécois. Je pense que collectivement, nous le méritons.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on va aborder la question plus générale des ressources d'hébergement pour les personnes âgées avec la ministre responsable déléguée à la santé et aux aînés, donc Sonia Bélanger. Madame Bélanger, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Je comprends qu'on peut pas faire de lien direct entre une enquête policière qui est en cours, mais quand même, il y avait eu un rapport du protecteur du citoyen qui soulevait des lacunes graves dans ces établissements-là, une enquête qui relève, en fait, qui a été rendue publique le printemps dernier, et je la cite, « La ressource mise en cause par le présent rapport est un milieu de vie dont l'ouverture est récente et dont la mise en marche s'est faite dans un contexte de manque de préparation, d'organisation et d'encadrement, ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a eu ces exemples qu'on vient de citer. » Êtes-vous au courant de ce rapport?
Oui, Monsieur Arcand. Mais d'abord, permettez-moi de dire là que j'ai été vraiment abasourdie là quand j'ai entendu ce qui s'était passé là-bas. J'étais au courant de ce rapport, bien sûr. Le protecteur du citoyen, lorsqu'il fait un rapport dans un milieu d'hébergement, vous comprenez que je les lis attentivement, puis on analyse le tout, on pose des questions. Et quand j'ai lu ce rapport au printemps dernier, la première chose qu'on a demandé, c'est est-ce que les mesures correctrices étaient en place? Est-ce qu'il y avait un potentiel pour s'améliorer? Parce que vous savez, il arrive quelquefois qu'il y a des RPA, des RI ont des difficultés. Ce qui est important, c'est que les CIS les accompagnent et qu'ils puissent redresser la situation. Dans ce contexte-là, les réponses qu'on m'a fournies, c'était que l'entreprise a très bien collaboré avec le CIS, les employés ont été rencontrés, puis il y a eu vraiment des mesures d'amélioration. Alors, le CIS est...
Quelles mesures d'amélioration?
Ben, des mesures au niveau, par exemple, du nombre d'employés, de soirs, de nuits, de la surveillance, de la qualité de façon générale. Les usagers ont été évalués par les soins infirmiers du CIS de la Naudière. Donc, un ensemble de mesures sur l'organisation du travail, sur les services alimentaires, sur la sécurité des lieux. Et de mémoire, là, ils ont aussi rehaussé le nombre d'employés, en particulier sur les quarts de soir et de nuit. Alors, donc, il y avait vraiment des mesures à court terme, à moyen terme. Le CIS était présent. Les équipes de soutien à domicile aussi, pour certains usagers, sont présents dans ces ressources, les services psychosociaux. Donc, tout m'indiquait que c'était pour s'améliorer.
OK. Il y a combien de résidences problématiques au Québec? Mettons là, des ressources intermédiaires ou des centres de soins de longue durée. Il y en a combien là, qui posent problème?
Bien, vous savez, dans les ressources intermédiaires, les ressources privées, il y a tout un processus de certification puis un processus d'évaluation.
OK, mais il y en a combien qui posent problème, c'est ça ma question?
Je vous dirais, là, celles qui sont plus en difficulté, là, on va parler d'une vingtaine, là, qui sont vraiment en accompagnement, qui ont des lacunes un peu plus importantes. La grande majorité des RPA donne de très bons services. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le mentionner.
Mais je voudrais vous poser une question quand même précise. Le protecteur, et c'est pas la première fois là, que le protecteur du citoyen note des lacunes dans l'offre qui est faite pour servir ces personnes âgées. Et quand on dit qu'il y a des correctifs qui sont apportés, est-ce que cette ressource-là avait été sous-financée puis le CIS a décidé de mettre plus d'argent pour qu'il embauche plus de personnel?
Ben, c'est une bonne question.
Mais c'est vous qui avez la réponse.
Oui, tout à fait. Je m'en viens avec la réponse. Mais, vous savez, le modèle RPA, là, c'est un modèle qu'on est en train de réviser complètement. Et on l'a vu, là, depuis les 5 dernières années, il y a environ 500 RPA, surtout des petites, qui ont fermé pour toutes sortes de raisons. Mais le modèle de financement, pose actuellement des défis importants. Et c'est pour ça que, à court terme, on a quand même fait des annonces là pour soutenir nos RPA au niveau financier. Il y a un modèle d'allocation directe à la personne qui est en train d'être développé. J'aurai l'occasion de pouvoir l'annoncer
éventuellement. Là, sérieusement, on sous-finance des ressources. Arrive un protecteur ou un drame, on augmente soudainement le financement pour trouver du personnel. Je veux dire, moi, ce que j'entends, là, ce sont des propriétaires de ressources qui n'ont pas l'argent, que les montants versés par Québec sont ridicules, ils peuvent pas couvrir les quarts de travail, surtout quand on augmente la rémunération dans le secteur public. Puis là, après ça, ils se font blâmer parce que le service n'est pas parfait, puis il manque de personnel. T'sais, dans le fond, ce que vous avez fait, que la ressource ou le drame s'est produit, c'est que vous avez donné plus d'argent pour qu'on puisse embaucher plus de monde.
Mais oui, c'est vrai. Il y a eu plus d'argent qui a été donné, mais il n'y a pas seulement ça là, qui a été fait. Puis vous savez, M. Arcan, le modèle des RPA est là pour rester au Québec. Et c'est important qu'on travaille dans le contexte du vieillissement avec nos RPA. Donc oui, le gouvernement doit continuer d'accompagner les RPA par des mesures concrètes de financement, mais les RPA ont quand même un rôle aussi puis des responsabilités.
Oui.
Quand ils décident de s'engager à ouvrir une entreprise de type RPA ou ressources intermédiaires, il y a des obligations.
Mais regardez,
alors ça, c'est important, là. Alors, on peut pas ramener tout au gouvernement. Moi, je le dis, les entreprises ont quand même une grande responsabilité.
Je suis d'accord avec vous qu'il y a une responsabilité, mais regardez ce qui se passe, là. 2020-2022, 40 des 66 appels d'offres pour mettre de nouvelles places dans des ressources intermédiaires ont été annulés parce qu'il n'y avait pas de preneurs. 40 sur 66. Pourquoi il n'y avait pas de preneurs, d'après vous?
Mais pourquoi il n'y a pas de preneurs? Parce que c'est, en fait, hein, c'est une mission importante. Quand on décide d'ouvrir une ressource intermédiaire, là, il y a vraiment un engagement, il y a une fibre sociale importante. C'est pas n'importe quel type d'entreprise. Puis je pense qu'avec la pandémie, on l'a vu, là, de plus en plus de personnes ont voulu aller vers différentes carrières, différents métiers. Plusieurs opportunités sont possibles dans la société pour se réaliser au niveau professionnel. Puis peut-être que le modèle des ressources intermédiaires, qui est quand même, faut le reconnaître, un modèle qui est lourd, est peut-être moins attirant. Ceci étant dit, je suis tout à fait consciente là qu'il faut réviser les paramètres et c'est ce qu'on est en train de faire, autant pour les ressources intermédiaires que les RPA, parce qu'on a besoin d'avoir ces ressources-là
Je vais souligner deux choses. Moi, je pense que les gens répondent pas aux appels d'offres parce que vous mettez pas assez d'argent dans la machine, parce que c'est pas intéressant de faire affaire avec l'État. Puis je parle pas là de faire des profits sur le dos des vieux, là, d'avoir un budget raisonnable pour être capable de soigner les gens. Ce que je remarque aussi, c'est que dans des RPA, des résidences pour personnes âgées, là, on est en train de créer le modèle suivant. Si t'es vieux, puis t'as un peu d'argent, puis que t'es en santé, on a de la place. La minute où tu demandes des soins, on n'est pas capable de se faire donner des budgets adéquats par l'État, parce qu'aux dernières nouvelles, c'est l'État qui soigne le monde. Et donc, on préfère ne plus offrir de place dans ce type de résidence. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se passer? C'est qu'on veut plus faire affaire avec vous?
Bien, en fait, vous soulevez là vraiment l'enjeu là, qui est vraiment important. C'est qu'on l'a vu, là, le phénomène depuis les 10-15 dernières années au Québec où il y a des RPA qui se construisent. Puis là, je nommerai pas là, les grands consortiums, mais on voit des grands RPA. Le grand défi, ce sont des milieux de vie qui sont souvent
oui,
très bien.
Oui, des RPA pour des vieux en santé, mais des RPA oui. avec des ailes pour des gens, pour des services additionnels, vous en trouverez pas bien gros, là.
Ben tout à fait, vous avez raison. Puis bon. Ce qu'on a vu comme phénomène, c'est que les RPA, en fait, vont héberger des personnes qui sont en relative bonne santé. Et lorsqu'ils commencent à perdre de l'autonomie, ben peut-être que là, ils n'ont pas nécessairement les ressources pour donner les services. Et c'est ça qu'on veut corriger, M. Arcand. Quand je disais tantôt que je veux revoir le modèle de financement des RPA, c'est qu'on a besoin de nos RPA au Québec. Vous savez, la solution ne passe pas seulement par construire des CHSLD.
Non.
Oui, ça, faut le faire. C'est la responsabilité du gouvernement. Mais les RPA, on doit les soutenir. Pour moi, c'est un milieu de vie.
Okay,
au même titre que quelqu'un qui demeure dans sa maison ou dans son logement.
OK. Je voudrais vérifier un parcours. On me raconte ça, puis je le crois pas. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous avez été dans le système du réseau de la santé. Il arrive qu'on doive réévaluer l'état des patients pour déterminer si les services, si les soins sont toujours adéquats ou si on doit modifier les services et les soins. C'est vrai, ça?
C'est vrai, tout à fait.
OK. Est-ce que c'est vrai que quand il y a des infirmières reconnues par l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec qui sont dans des résidences, qui pourraient faire l'évaluation, on refuse leur évaluation et qu'on demande absolument à une autre infirmière qui fait partie du même ordre professionnel, mais qui est intégrée au CIS ou au centre comme tel, là, les CLSC?
Ben oui, tout à fait.
Mais pourquoi l'infirmière diplômée n'est pas capable de faire la job?
Ben écoutez, ça fait partie des éléments là que j'ai appris en travaillant avec les différentes RPA. Puis c'est un gros problème, en fait, là. C'est comme si nos équipes CLSC repassent par-dessus l'évaluation d'une infirmière.
Je vais vous le dire, pourquoi c'est le même.
Alors, c'est vraiment un gros, gros problème.
Mais
et on
savez-vous pourquoi c'est comme ça?
Évaluations. Oui, allez-y.
Ils font ça de même parce que ça retarde l'évaluation, ça retarde les changements parce que souvent, ce sont des services additionnels qui doivent être donnés et ça coûte plus cher. Fait que veut pas... C'est une business et la machine gouvernementale fait en sorte qu'on retarde les soins qui sont donnés aux patients parce qu'on est dans les délais pour évaluer les cas.
Bien, la machine gouvernementale, elle est trop lourde, M. Arcand. Puis au niveau des évaluations, là, il y a trois types, vous pouvez imaginer, là, trois types de formulaires différents. Certains formulaires d'évaluation là, peuvent prendre, dépendamment des situations, jusqu'à une à deux journées pour compléter le formulaire. Alors, on est vraiment, là, je suis en train de regarder ça, c'est inadmissible, inadmissible. Trois sortes de formulaires différents, des statistiques à rentrer. Alors, on est en train de créer un goulot d'étranglement avec des procédures qui ne doivent plus avoir lieu en 2023.
Je comprends, mais Mme Bélanger, la conclusion, c'est que vous êtes incapable de créer des places en nombre suffisant. Les appels d'offres, les gens sont pas intéressés. Et que dans le fond, les Québécois qui ont payé des taxes toute leur vie se font dire, si t'es vieux, puis en santé, puis que t'as un peu d'argent, tu vas être correct. Le jour où tu vas commencer à être malade, là, on n'est pas capable de s'occuper de toi parce qu'on a des formulaires, parce qu'on a des pratiques qui retardent l'octroi des soins. Et ultimement, si t'es bien malade, on n'est même pas capable de trouver une place dans un centre de soins de durée. C'est ça qui nous attend.
Oui, M. Arcand, écoutez, je comprends tout à fait là, votre intervention, mais je veux quand même vous dire, le gouvernement a la responsabilité de s'assurer que le système en lien avec le vieillissement fonctionne au Québec.
Mais il fonctionne pas.
Et Oui, mais attendez, on fait quand même beaucoup de choses actuellement, puis je pense que c'est important de le mentionner. À court terme, on a nos maisons des aînés. On est en train de les ouvrir, M. Arcan. C'est 3500 places. 3500 places créées en l'espace de 3 ans, dans une période où la construction a été extrêmement sollicitée. Il faut se réjouir de ça, là. Je suis en train d'en inaugurer des maisons des aînés cet automne. Il y en aura une dizaine de plus qui s'ajoutent. Il y a aussi tous les CHSLD publics qui sont désuets, que nous allons reconstruire. Et pour chacune des situations, nous allons ajouter des places. Alors, ça, c'est des places concrètes. Mais, M. Arcan, il faut qu'on continue de travailler avec les RPA. On a besoin de ce réseau-là et je suis en train de revoir le modèle.
Mais ce que vous
nous
dites...
allons faire des annonces éventuellement. Puis oublions pas le soutien à domicile aussi, qui est un élément majeur. Il faut travailler sur différents plans.
Mais Mme
Bélanger, je suis au rendez-vous.
Vous êtes ministre depuis un an. Vous me parlez de fonctionnaires, de paperasses, de documents, des formulaires à remplir. D'une évaluation qui est faite en double parce que on veut gagner du temps pour sauver de l'argent. Il me semble que ça doit pas prendre une éternité à faire le ménage de ça. Cette pratique-là, là, par exemple, des infirmières, là, qu'on fait la job deux fois.
Ben, écoutez, vous savez que le système s'est construit doucement, tranquillement, en ajoutant de plus en plus d'intervention très technocratique. Il faut le défaire, le système. Il va être révisé. C'est mon engagement. J'ai posé des questions. J'ai mis en place des chantiers de travail cet été. Je vais être en mesure, M. Arcan, de faire des annonces dès la semaine prochaine. Pour moi, c'est intolérable. Intolérable qu'on ait des processus technocratiques qui viennent, au bout de la ligne, bloquer le cheminement de nos patients, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en RPA, que ce soit en soutien à domicile. Et c'est mon engagement. Mais changer un système, M. Arcan, vous le savez, c'est pas simple, mais je m'en vais là, c'est là que je m'en vais. Les fonctionnaires sont au courant. J'ai déjà amené des changements au sein de mon équipe, au niveau du ministère. C'est une des premières choses que j'ai fait quand je suis arrivée. Puis on a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Moi, je veux qu'on redonne de la confiance là, aux aînés au Québec. On a besoin d'agir puis d'agir rapidement. C'est ce qu'on fait là, en travaillant sur différents fronts.
Je pense que les Québécois dans Jean Talon vous ont envoyé une partie de la réponse hier. C'est pas juste que le réseau de la santé, là. C'est que les gens sont tannés. Puis ils vous croient pas. Parce que vous répétez des promesses, que vous prenez des engagements. C'est très bien dit, là. Puis c'est rien de personnel. Mais les gens décrochent. On écoute ça, puis on croit plus rien.
Ben, monsieur Arcan,
puis les gens l'ont exprimé assez clairement dans Jean Talon.
Oui, ben écoutez, là, deux choses. Bon, Jean Talon, hier, vraiment, si vous me demandez ce que j'en pense, je suis extrêmement déçue. On a travaillé très fort. J'ai été moi-même présente durant le dernier mois. J'ai accompagné Marie-Annick Chouari. Bon, naturellement, comme ministre responsable des aînés, je suis allée à la rencontre des aînés, surtout. J'ai fait 2 journées de porte-à-porte, mais en fait, le maximum a été fait avec les aînés et la candidate Marie-Annick. Et la réponse sur le terrain des aînés, elle est quand même...
La réponse dans l'urne est pas mal différente, d'après...
Ben, écoutez,
les gens sont polis.
Ben attendez, il y a 2 choses là. Là, on peut pas présumer du vote des aînés, mais je veux quand même vous dire la réponse sur le terrain. J'ai eu l'occasion d'échanger. Je suis très présente dans toutes les régions du Québec, M. Arcan. Les aînés sont quand même, en général, conscients de toutes les actions qu'on est en train de mettre en place.
Okay.
Et c'est important, on s'arrêtera pas là. Pour hier, Jean Talon, c'est extrêmement décevant. Et moi, j'ai été vraiment, en tout cas, hier soir, là, j'étais très émue de voir notre premier ministre. Je pense qu'il l'a vu, il a compris le message, puis on va travailler pour continuer à aller à la rencontre des gens de Québec. Mais je comprends tout à fait là que on a du travail à faire avec les aînés, puis je suis au rendez-vous, c'est ce que je veux faire.
Parfait, merci Mme Bélanger.
Merci beaucoup.
Au revoir,
M.
Sonia Bélanger est la ministre déléguée à la santé et aux aînés. Puis on va poursuivre la discussion sur Jean Talon parce que le Parti québécois l'a emporté clairement. Il y a pas d'équivoque, c'est du 2-1. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, est avec nous ce matin. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour.
Bonjour.
Vous avez gagné pourquoi, vous pensez, dans Jean Talon?
2 facteurs qu'on nous a dit en porte-à-porte tout le temps. Le premier, c'est que c'est un message au gouvernement. Si on ne peut plus clair, vous ne pouvez pas prendre des engagements, faire des promesses, puis ensuite faire autre chose sans qu'il y ait de conséquences. Donc, il y avait cette volonté-là, puis c'est très sain du point de vue des électeurs d'envoyer ce message-là. L'autre élément qu'on nous disait souvent, c'est on apprécie votre travail. On aime les trois députés du Parti québécois. On trouve que vous élevez le débat dans la mesure du possible. Vous faites des propositions. On aime ça. Donc, vous méritez un quatrième député. On aime bien Pascal Paradis. Donc, on va vous soutenir là-dedans. On s'attendait donc à un certain soutien. On espérait une victoire dans une circonscription qui n'a jamais été gagnée de toute l'histoire du Parti québécois. Et finalement, c'est une victoire qui est non équivoque. Ça, on l'avait pas vu venir. À ce point-là, on l'avait pas vu venir.
Est-ce que les gens qui se sont exprimés dans Jean Talon, puis c'est un échantillon, là, mais quand même, là, les gens qui se sont exprimés dans Jean Talon le font aussi, vous dites, c'est un message qu'on envoie au gouvernement, mais en même temps, il n'y a pas un enjeu déterminant, dans le sens où le gouvernement est toujours bien en selle, il va demeurer majoritaire. Ça change pas l'opposition officielle, même si vous vous positionnez davantage maintenant comme l'opposition, je dirais, concrète terrain là, par rapport aux libéraux. Est-ce que c'est de dire, je me prononce pas sur le fond, là, mais je lance un avertissement?
Ah, c'est clairement ça. Puis c'est clairement aussi une volonté d'équilibrer les choses. Je pense que 90 députés par rapport à l'évaluation que... On a entendu de la part de la population l'évaluation du gouvernement de ses réussites et de ses échecs. Les gens voulaient équilibrer les choses en disant on n'est pas très satisfait en ce moment. Et je pense que c'est représentatif de plusieurs autres régions du Québec. Quand on regarde les chiffres de la grande région de Québec, de d'autres régions qui sont déçues, je pense, après un an là, des élections générales, c'est un message qui a une portée partout à travers le Québec, qui est représentatif d'une volonté là, de demander au gouvernement de se ressaisir.
Quand on arrive dans le cadre d'une élection générale, avez-vous l'impression que l'idée de la souveraineté, l'option souverainiste va vous affecter, que des gens voteraient pour le PQ pour le changement, mais ils vont bloquer sur cette question-là?
Ben, je pense qu'on est à 3 ans des élections générales. Moi, ce que j'ai vécu dans la partielle, c'est que les gens savaient qu'on était indépendantistes. Il nous disait un peu on va lire votre budget, on va vous écouter sur cet enjeu-là. Mais ça les
c'était pas un sujet d'intérêt numéro un.
Ça changeait pas ce qu'il y avait à nous dire sur ce qu'on faisait, à savoir on aime que vous vous adressiez à notre intelligence, on aime que vous preniez le temps de mettre par écrit vos positions, on vous écoute puis on trouve que c'est du bon travail. C'est ça qu'on m'a dit, moi, dans cette élection partielle. Il y a une réceptivité, puis en même temps, tu sais, je veux pas instrumentaliser l'élection partielle, là. Les gens ont pas voté en fonction de l'indépendance, mais ils étaient pas fermés non plus. Donc, c'est à nous de travailler. C'est pour ça qu'il faut prendre avec une certaine modestie le résultat d'hier. C'est impressionnant, mais il y a encore du travail devant nous. Puis heureusement, on sera 4 au lieu de 3 à pouvoir faire ce travail-là. Donc, c'est quand même une très grande différence dans nos vies.
Non, je dis pas d'interpréter l'élection comme un référendum. Mais des auditeurs me font remarquer ce matin, oui, on voulait envoyer un message au gouvernement, mais en même temps, quand va arriver le moment d'une élection générale où là, l'enjeu va être sur la table, il peut y avoir chez des électeurs qui auraient le goût d'un changement, une réticence ou en tout cas une hésitation.
Ben écoutez, la proportion d'indépendantistes au Québec en ce moment, c'est 38%. Puis, en plus, il y a des gens que je pense qu'on peut...
Pensez-vous qu'il y en a chez Québec solidaire?
Ça, c'est une question épineuse. mais c'est pour dire que, tu sais, je veux dire, il y a 3 ans pour nous de travail, mais il faut voir hier comme une tape dans le dos. Puis, tu sais, il faut le mettre en perspective. On est passé de 9 % à 22 % dans les sondages partout au Québec en à peu près un an. Donc, on va continuer à travailler de la même manière, continuer d'être transparent sur ce qu'on pense, ce qu'on souhaite pour le Québec, puis laisser les gens cheminer là-dedans. Mais on ne changera rien. Là. De notre côté, les gens aiment notre authenticité et qu'on ne dira pas ce qu'on pense de chaque enjeu, puis on va se présenter comme on est. Hier, c'est quand même un signal très encourageant.
Ben, bravo pour la victoire. Merci d'avoir été avec nous.
Merci infiniment.
Au revoir. Paul Saint-Pierre Plamondon est le chef du Parti québécois.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Une histoire terrible qu'on a pu voir à Radio-Canada concerne cette personne handicapée intellectuellement qui a été martyrisée. Et c'est pas là une exagération de termes. Cette femme a été une femme âgée, a été négligée, a été frappée. On l'a obligée pendant des années à faire des tâches ménagères. C'est, certains ont dit, Aurore, l'enfant martyr, mais pour une personne âgée. Ça se passe en Beauce, et la personne qui a posé les gestes, puis évidemment, il faut protéger les identités, a écopé d'une peine de 4 ans de prison. J'en parle avec Maître Annick Arbour, procureur aux poursuites criminelles et pénales, et qui a donc piloté ce dossier. Maître Arbour, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Ça a duré 10 ans, le cauchemar de cette femme-là, hein, c'est ça?
Approximativement, en effet.
Si vous aviez à me décrire sa vie pendant ces 10 ans-là, ça ressemblait à quoi?
J'ai envie de vous prédire que ça ressemblait à un cauchemar, puisque elle devait faire toutes les tâches ménagères, mais au surplus était maltraitée par les personnes qui devaient en prendre soin. Elle avait des coups parfois avec un balai, parfois avec une vadrouille. À un certain point, elle a été même enfermée dans une chambre où elle devait faire ses besoins dans un pot. Donc, on se retrouve vraiment dans une situation particulièrement triste et même, je dirais, révoltante pour cette femme qui est aujourd'hui plus âgée, là, mais qui, dans les faits, est comme une enfant.
Puis elle s'est retrouvée dans ce milieu-là comment?
Puisque la personne qui était son tuteur à l'origine était le conjoint de la dame qui a été accusée. À son décès, c'est madame qui a pris la charge de la victime.
Et compte tenu de son état, de sa déficience, elle n'était pas capable de se défendre, elle est encore plus vulnérable.
En effet, c'est une femme qui est très vulnérable. On l'a vu également dans le cadre de son témoignage. On doit s'adresser à elle un petit peu comme à une enfant pour bien se faire comprendre de sa part. Elle s'exprime bien, par contre, mais visiblement, là, elle agit un petit peu comme une enfant encore aujourd'hui.
Comment tout ça a éclaté au grand jour? Comment ça a été transmis aux autorités? Comment on s'est retrouvé en procès?
Elle a changé de tutrice. Elle vit maintenant avec d'autres gens, mais entre les deux, elle est allée chez un autre membre de la famille. Et c'est à cette tutrice-là qu'elle s'est confiée sur les sévices qu'elle avait subis de la part de l'accusé dont vous me parlez, mais également de quelqu'un d'autre là, qui devra repasser à la cour plus tard aujourd'hui. Et lorsqu'elle a parlé de ces événements-là avec sa nouvelle tutrice, elle a été conduite au poste de police. Et c'est à ce moment-là qu'une déclaration qui a été prise de cette dernière et les nombreuses personnes qui vivaient dans le milieu, qui côtoyaient le milieu, ont également été rencontrés.
Bon, ça m'amène à vous poser l'autre question. Pendant 10 ans, là, il y a des gens, mis à part la femme accusée, là, qui ont été en contact avec cette femme-là. Je veux dire, étais-tu isolée à ce point qu'elle n'a vu personne pendant 10 ans, ou il y a des gens qui ont détourné le regard sur ce qui se passait?
Il y a des gens qui ont été témoins, pas évidemment de tout ce qui se passait, mais de certaines portions des événements. Je peux dire que certains ont certes détourné le regard, mais par contre, plusieurs ont exprimé des craintes par rapport à l'accusé et à ce qui pourrait survenir s'il parlait.
Pourriez-vous
m'en... représenté devant la cour.
OK. Pourriez-vous m'en dire plus? Ils avaient peur de quoi de cette femme-là?
Ce n'est pas détaillé là, dans la preuve que nous avons, mais ils étaient inquiets de ce qui pourrait survenir. Évidemment, ils voyaient que cette dame-là était utilisée sur toutes les facettes, soit au niveau physique, parce qu'elle recevait des coups, au niveau même de la maltraitance qui est au-delà des crimes, mais vraiment d'une maltraitance psychologique. Il y avait également le côté financier où tout son argent était soutiré et utilisé pour des besoins des autres personnes qui habitaient là, et pas dans le cadre de l'accusé présentement là dont on parle, mais l'autre personne qui avait des abus sexuels, et plutôt que de faire quitter la personne qui commettait les abus du domicile, on enfermait la victime dans sa chambre pour l'empêcher de circuler. Donc, évidemment, ça peut dissuader d'autres gens de parler là, quand on voit comment sont traités les gens par rapport à la situation.
Je comprends que, et vous l'avez mentionné tantôt, c'est le frère de l'accusé là, qui a agressé sexuellement la victime plusieurs fois, là, puis ça va être en cours aujourd'hui. Là.
C'est ce qui est allégué, qu'il y a eu plusieurs... Okay. Plusieurs agressions sexuelles. Ça revient à la cour aujourd'hui. Lors du dernier passage à la cour, monsieur avait manifesté son intention de plaider coupable. Donc, on verra si c'est ce qu'il fera réellement aujourd'hui.
Ouais. Maître Arbour, de façon générale, c'est sûr que c'est difficile à croire que des gens sur une aussi longue période de temps qui ont vu des choses. Je comprends le contexte et les pressions familiales, mais en même temps, là, de voir une femme maltraiter de cette façon-là, voir son état se dégrader et ne rien faire. Il y a une forme de complicité dans ça. Là.
C'est difficile difficile d'établir la complicité pour l'ensemble d'entre eux. Il y a également une autre personne qui a été dans le milieu, qui a fait face à une accusation de voie de fait par le passé, mais il y a plusieurs des personnes là, pour lesquelles on ne peut pas dire qu'il y ait complicité puisqu'ils n'ont pas dénoncé, mais n'ont pas nécessairement commis de gestes eux-mêmes à l'égard de la personne victime.
Non, mais quand je vois une déficiente intellectuelle se faire frapper, se faire enfermer, puis je fais rien, c'est une forme de complicité. Peut-être pas légalement, là, mais je suis complice des gestes qui sont posés. Je la frappe pas, mais je fais rien pour pas que ça arrive.
Il y a certes un examen de conscience à faire dans des circonstances comme celle-là.
OK. 4 ans de prison, est-ce que c'est une suggestion commune?
C'est une suggestion commune qui a été présentée par les parties après l'analyse de divers facteurs dans le dossier et également après avoir rencontré la personne victime, de même que sa tutrice, avec l'équipe qui accompagne ces gens-là dans le cadre du processus, oui.
OK. Pourquoi 4 ans?
En fait, il y a plusieurs facteurs qui ont été pris en considération, mais l'un des facteurs qui a été considéré de façon importante, tant lors de la suggestion que par le tribunal lorsqu'il a rendu sa décision, c'est le fait d'éviter à cette victime-là, qui est particulièrement fragile et vulnérable, d'avoir à vivre un long témoignage dans le cadre d'un procès, c'est-à-dire d'avoir à revivre d'une certaine façon l'ensemble des sévices vécus sur une longue période pour se soumettre au contre-interrogatoire, d'avoir également à refaire face d'une certaine façon à la présence de son abuseur, ce qui pouvait, dans les circonstances, si on veut, réaviver toutes les conséquences qui sont encore présentes, mais qui, avec le temps, tendent à s'atténuer en l'absence de contact avec cette personne-là.
Vous corrigerez, il me semble que le juge a dit que c'était à la limite de l'acceptable.
Il a dit que c'était dans les limites des peines raisonnables, en effet. En fait, ce dont le tribunal parlait à ce moment-là, c'est des critères pour savoir s'il accepte ou non une suggestion commune. Et pour pouvoir rejeter une suggestion commune, celle-ci doit être déraisonnable. Et donc, dans ce cas-ci, ce qu'il mentionnait, c'est que la peine aurait pu être plus longue, mais qu'elle était dans le caractère raisonnable des suggestions qui pouvaient être présentées à la Cour. Évidemment, c'est la décision là, du tribunal, là, je vous l'ai dit dans mes mots, oui. Mais c'est ce qu'il a indiqué à ce moment-là.
Merci beaucoup, Maître Arbour. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Maître Annick Arbour est procureur aux poursuites criminelles et pénales. Mais pendant 10 ans, une femme déficiente qui a été abusée financièrement, psychologiquement et physiquement, et en plus de faire face à des agressions sexuelles à répétition, dans un milieu où les gens ont préféré ne pas parler. C'est malheureusement des histoires comme ça qui se répètent trop souvent. Maintenant, dans la presse matin, affaire de blanchiment d'argent assez particulière. C'est presque un scénario de film. Une enquête qui a été menée par Vincent Larouche, Daniel Renault. Et là, on apprend donc que la GRC puis des policiers de 2 autres pays enquêtent sur le cartel mexicain de Sinaloa, qui est un des cartels les plus puissants, les plus violents, et qui utilise le casino de Kanawake pour blanchir de l'argent avec un personnage originaire de l'Albanie. Vous voyez un peu la mise en place. Vincent Larouche est avec nous. Bonjour, Vincent.
Oui, bonjour.
Ben, peut-être nous raconter d'abord qui est ce personnage là qu'on soupçonne de faire du blanchiment d'argent à Kanawake.
Oui, donc un homme d'affaires très prospère, un géant un peu des casinos au Mexique et en Europe, M. Louftar Issa. C'est quelqu'un qui avait jamais fait parler de lui au Québec, même s'il est établi sur l'île de Montréal depuis 2003. Il possède une immense maison à Ville-Mont-Royal qui s'est fait construire ici, gère plusieurs entreprises. Et M. Issa avait fait la manchette déjà au Mexique et en Albanie parce que les autorités dans ces deux pays-là le soupçonnent d'être un blanchisseur d'argent au service du cartel de Sinaloa. On se rappelle, c'est un des cartels mexicains les plus puissant au monde. Son chef, à l'époque, El Chapo, avait été condamné à la prison à vie aux États-Unis. Ça a fait l'objet de séries sur Netflix, etc. C'est toujours aujourd'hui une organisation extrêmement puissante. Et ce monsieur-là avait été identifié par les autorités mexicaines, principalement, comme un blanchisseur qui prenait l'argent du cartel pour le recycler à travers tout un réseau de casinos au Mexique et en Europe, ou dans la construction, l'industrie du tourisme aussi. Il a nié vigoureusement ces liens-là, mais ce que notre enquête révèle maintenant, c'est qu'il est actif ici aussi. Il est impliqué dans un casino privé sur la réserve de Kanawake, juste au sud de Montréal, et la GRC dit croire qu'il utilise le même stratagème identifié par les autorités mexicaines, c'est-à-dire que des millions de dollars entrent ici grâce à lui dans le casino et ressortent, sont envoyés en Albanie pour être injecté dans l'économie légale et blanchi afin qu'on en perde la trace.
Dans l'article, vous citez les documents du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Là, ça, c'est l'organisme qui surveille les transactions pour éviter justement du blanchiment. Et il y a quand même des transactions assez étranges dans son cas.
C'est des drapeaux rouges qui ont été levés. Cet organisme-là, quand il y a des transactions suspectes, doit alerter les forces policières, préparent des rapports et ils ont des dizaines et des dizaines et des dizaines de rapports d'opérations financières suspectes impliquant M. Issa et le restaurant qu'il possède à l'intérieur du casino à Kahnawake. C'est des dizaines de millions de dollars qui arrivent du Mexique, qui sont ensuite retransférés vers l'Albanie, notamment vers une compagnie de construction de la famille Issa. Et on a des transferts qui sont sans aucune justification apparente parfois. Et ni ce monsieur-là, ni d'autres parties qui sont impliquées dans les transactions n'ont donné de justificatif ou d'explication pourquoi des telles sommes arrivent du Mexique, repartent vers l'Europe et puis suivent un chemin qui permet d'embrouiller la trace.
Mais l'exemple qui est très frappant, c'est le restaurant là, Mirella, qui est, je crois, le prénom de sa conjointe. On a envoyé 28 millions, on parle d'un restaurant, là, 28 millions en Albanie, au Mexique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, puis en Italie en moins d'un an.
Exact. Et puis là, monsieur est allé à la télévision en Albanie pour dire, ah oui, mais c'est un des meilleurs restaurants à Montréal, donc ça marche vraiment fort. Je veux bien. 28 millions de dollars transférés en Albanie après avoir payé ses frais, ses employés, ses dépenses, ça semble pour le moins... énorme.
Parlons de Kahnawake. Bon, ce Magic Palace, il est toléré. Et comment est-ce qu'on voudrait s'en débarrasser? On est là parce qu'on n'est pas trop achalé?
C'est un sujet délicat à Kahnawake. Il y a eu 3 référendums depuis le début des années 2000 où la population s'est prononcée contre l'ouverture de casinos à Kahnawake. On craignait l'impact sur un peu la même chose que quand on parle d'installation de l'Auto-Québec. On craignait l'augmentation du jeu compulsif, des personnes vulnérables. Les référendums ont parfois été très serrés, par contre. Et donc, cet établissement-là, qu'on dit qu'il n'est pas vraiment un casino à Kahnawake, donc le conseil de bande ne le considère pas vraiment comme un casino. Il y a à peu près 400 machines de loterie vidéo, mais c'est plus considéré comme une espèce de salon de jeu. Et donc, on lui a permis d'ouvrir dans une espèce de projet pilote. Il verse des redevances comme en millions de dollars au conseil de bande. Les évaluations du conseil jusqu'à présent, c'est que la clientèle, de toute façon, vient presque toute de l'extérieur de la réserve. Donc, il n'y a pas d'impact sur la clientèle vulnérable, le jeu compulsif au sein de la communauté. Et donc, pour l'instant, c'est toléré. On dit qu'on va le réexaminer, mais bon, on a contacté le conseil de bande hier. Ils nous ont dit, regardez, c'est une question interne à la communauté et elle va le rester. Donc, c'est pas avec vous qu'on va faire le débat, à savoir l'avenir de cet établissement-là. Chose certaine, son ouverture au début, c'était controversé.
Merci beaucoup, Vincent Larouche, journaliste à La Presse. Et donc... sympathique personnage qui ferait du blanchiment pour un des cartels les plus sanguinaires du Mexique, cartel de drogue, évidemment. Tout ça se passe en périphérie de Montréal.
C'est 23.